franceinter.fr.
Le système solaire a-t-il un jour compté 5 géantes gazeuses au lieu de 4 actuellement? Cette hypothèse débattue depuis quelques années par les astrophysiciens revient dans l'actualité avec des éléments de preuve qui accusent Jupiter d'avoir éjecté une concurrente dans la genèse du système solaire. Des travaux réalisés par l'Université de Toronto, publiés à la fin du mois d'octobre. Bonjour Jacques Lascar.
Bonjour.
Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, puis également à nos côtés Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Bonjour, bonjour Philippe. D'où vient cette hypothèse d'une cinquième géante gazeuse dans notre système solaire, Philippe?
Mais elle vient de la genèse du système solaire, à l'époque où le Soleil venait de se former et où les planètes étaient en train de se former. Là, d'après les modèles théoriques en cours depuis le milieu des années 2000 à peu près, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées très vite, qu'il y a une sorte de billard interplanétaire, que les planètes ne se sont pas formées là où elles se trouvent aujourd'hui, qu'elles ont migré, qu'elles se sont rapprochées du Soleil, qu'elles sont reparties. Bref, c'est assez compliqué à résumer en quelques secondes.
Mais c'est bien résumé en tout cas, oui.
Voilà. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Et dans ce billard, il y a quand même des choses, théoriquement, qui ne cadrent pas très bien. Par exemple, pourquoi Mars est si petite? Pourquoi Mars, qui est notre voisine, n'est pas plus grosse? Pourquoi la Terre, Vénus, Mars, Mercure sont encore là? Eh bien, à l'époque où Jupiter s'était rapproché du Soleil, il aurait fallu pour cela que, en gros, elle s'éloigne assez rapidement. Et or, ça ne semble pas être le cas si on ne fait pas intervenir une planète en plus qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc, il y a des chercheurs qui, il y a quelques années, ont introduit dans leurs calculs pour les modèles cette fameuse planète pour voir ce que ça donnait. C'était assez audacieux comme hypothèse. Mais finalement, le résultat marche assez bien. C'est-à-dire qu'en prenant ce point de départ-là avec une planète supplémentaire qui aurait été éjectée, qui aurait permis à Jupiter de s'éloigner très rapidement et donc à la Terre de se former, eh bien, on a des résultats qui sont assez cohérents avec ce qu'on observe aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais en gros, l'histoire, elle est là. Et donc, il y a des gens qui, depuis quelques années, travaillent sur cette hypothèse.
Est-ce que vous y croyez, Jacques Lascar, à cette hypothèse de l'éjection?
En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le système est très peu contraint. Donc, des scénarios, il y en a beaucoup. Ça, c'en est un parmi d'autres, parce qu'il y a eu d'autres hypothèses aussi pour expliquer une plus petite valeur de Mars. Et le papier qui vient de paraître ces mois-ci, c'est pas du tout, comme vous l'avez dit, une preuve de l'existence de cette planète. C'est plutôt de montrer que si une planète a été présente et qu'elle a été éjectée par Jupiter ou Saturne, c'est plus probablement Jupiter qui l'a éjectée que Saturne. En gros, le problème d'éjecter une planète, c'est que il faut passer près de la grosse planète, de Jupiter ou de Saturne, et si on passe près, on risque de détruire la stabilité ou l'orbite des satellites extérieurs. Et dans le cas de Saturne, on détruit les choses, on détruit Iapétus, et dans le cas de Jupiter, Callisto tient mieux. Donc, le papier, c'est juste dire que c'est pas impossible de faire une éjection en utilisant Jupiter. Ça ne veut pas du tout dire que cette planète a existé ou qu'elle était présente.
On enlève Saturne, en tout cas, effectivement. Mais alors, comment on travaille sur cette hypothèse, Philippe? Est-ce qu'on peut faire des observations d'abord pour en savoir un peu plus?
Les observations sont ceux qui contraignent les modèles. C'est-à-dire, on sait ce qu'on voit, on sait ce qu'on observe. Et donc, après, quand on fait des hypothèses pour essayer d'expliquer tout ce qui a pu se passer dans l'évolution, il faut que ça cadre avec ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Il faut qu'on arrive au résultat. Si vous voulez, on a le résultat sous les yeux. Et à partir de ce résultat, on essaie de remonter en arrière. Mais effectivement, dans tous les modèles, et il y en a effectivement plusieurs qui ont été proposés, certains marchent mieux que d'autres, mais il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Celui-là, cette solution de la planète éjectée, ça marche dans un bon nombre de cas. Oui. Et effectivement, on ne parle certainement pas de preuves.
Alain, Ray, ça vous intéresse?
Oui, l'astronomie me passionne et je pense que le poids du langage est très très fort, parce que si l'on dit « il est fort possible que », avec cette hypothèse, on inspire le souhait que ça soit vrai. Et si on dit « il n'est pas impossible que », ce qui vient d'être fait par notre correspondant astronome, on implique que ça n'est pas impossible, mais c'est tout. Et on n'ira pas plus loin, c'est donc à peine une hypothèse.
Le poids des mots, Jacques Lascar.
Oui, il est très important. Et j'en ai vu l'exemple récemment à propos d'un autre article qui a été publié et qui a eu beaucoup d'écho, y compris dans votre émission, c'était à propos de simulation de la stabilité du système solaire sur 5 milliards d'années, mmh. et qui reprenait le travail que nous avions fait il y a 6 ans. Il y a 6 ans, nous avons montré que Vénus pouvait entrer en collision avec la Terre en moins de 5 milliards d'années, en faisant 2500 essais du mouvement du système solaire sur 5 milliards d'années. Alors pourquoi 2500 ? Eh bien, c'est parce que il y a 25 ans, j'ai montré que le mouvement des planètes du système solaire était chaotique et qu'en fait, on ne pouvait pas prédire le mouvement au-delà de 60 millions d'années. Ça, c'est un résultat plus récent. Mais donc, au-delà de 60 millions d'années, la seule chose qu'on peut avoir, c'est une vision statistique du mouvement des planètes.
Ce qui est très jeune, 60 millions d'années, hein, dans une histoire qui compte 5 milliards d'années. Donc là, au bas mot.
Mais oui, et en fait, on s'y est heurté directement avec les observations. Parce que le fait que les orbites des planètes se déforment en raison de leurs perturbations mutuelles, ça implique des changements de la forme de l'orbite de la Terre. Et ces changements impliquent des changements climatiques à la surface de la Terre. Et ces changements climatiques sont enregistrés dans les dépôts sédimentaires au fond des océans, qui sont maintenant réanalysés, et on retrouve comme ça la succession des cycles climatiques en correspondance avec les variations que l'on peut calculer de la forme de l'orbite de la Terre et de l'orientation de l'axe de la Terre. Et du coup, on peut donner à la géologie une échelle de temps astronomique. Et c'est ce qui a été fait récemment, en 2004, sur la période la plus récente, la période du Néogène, qui correspond aux 23 derniers millions d'années de la Terre. Et alors, que voulaient les géologues ? Les géologues se disaient, c'est magnifique, on a cette échelle de temps sur 23 millions d'années, pourquoi ne pas aller plus loin ? On va récupérer des enregistrements plus profonds et retomber jusqu'à la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années.
Jacques Lascar, vu qu'on parle d'hypothèse, on pourrait peut-être chiffrer cette hypothèse. Quelles sont les chances que Mercure se décroche de son orbite dans le futur ?
Alors oui, ça, là vous parlez de ces simulations sur 2500 trajectoires. Alors comme je l'ai dit, c'est une vision statistique. Une infime variation aujourd'hui donne des variations possibles importantes dans le futur. Et donc là, ce qu'on avait estimé sur 2500 trajectoires, il y avait 21 trajectoires pour lesquelles on avait une très forte augmentation de l'excentricité de Mercure qui conduisait à une collision soit avec le Soleil, soit avec Vénus.
Donc 1%.
À peu près 1%, 0,8% pour être plus précis. Voilà. Alors, ce qui est amusant, justement, on parlait du poids des mots, c'est que le mois dernier, des scientifiques américains de Hawaï refont le même calcul, vraiment ils refont, leur but c'est refaire notre étude, et ils prennent 1600 solutions, ils trouvent 10 solutions qui donnent exactement la même chose, dans lesquelles Mercure a une possibilité de collisionner avec le Soleil ou Vénus, donc le rapport c'est 0,6%, Si on regarde l'incertitude dans les deux cas, ça va être 0,2%. Donc en fait, le résultat, c'est qu'on retrouve exactement la même chose.
Bon,
c'est-à-dire, fait dans des conditions complètement différentes, on a la même probabilité de collision de Mercure, d'instabilité complète de Mercure et de collision avec Vénus et le Soleil.
Voilà, donc on est passé de cette planète éjectée dans la genèse du système solaire à une extrapolation sur le futur
avec des hypothèses
du Mercure. Merci beaucoup Jacques Lascar, merci également Philippe Hénarejos pour vos explications, publications donc récentes autour de cette éjection de planète. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, avis aux aventuriers, vous rêvez de visiter la Lune ou pourquoi pas de poser le premier pied sur Mars. Eh bien, la NASA recrute des astronautes en ce moment dans une annonce faite hier. L'agence spatiale américaine encourage tous les pilotes, ingénieurs, scientifiques et autres médecins à soumettre leur candidature à partir du 14 décembre jusqu'à la mi-février 2016. Le but affiché étant de recruter les hommes et les femmes qui aideront à fouler donc un jour le sol rouge de la planète Mars. La NASA rappelle qu'il va y avoir au cours des prochaines années un nombre sans précédent de vols spatiaux habités. Un pansement qui brille lorsque votre plaie est infectée. Ce prototype proposé par des chercheurs britanniques pourrait permettre de limiter les risques de complications après une opération. Il y a toujours quelques bactéries qui se glissent dans une plaie en cicatrisation. Mais une colonie devient dangereuse seulement quand elle commence à s'organiser, à former ce qu'on appelle des biofilms bactériens. Ce nouveau pansement, spécialement conçu pour détecter ces biofilms et s'éliminer en quelques minutes en leur présence, est donc à l'étude. Un bel espoir pour limiter les infections nosocomiales post-chirurgicales. Et puis on l'apprenait hier, la disparition de l'académicien René Girard, ethnologue et théoricien. Il s'est éteint aux États-Unis à l'âge de 91 ans. Il a notamment marqué la scène intellectuelle mondiale avec ses théories sur le désir mimétique. Il expliquait justement cette théorie au micro de France Culture en 2005 dans l'émission Fort Intérieur.
Les hommes sont violents. Je pense que les hommes sont violents, non pas parce qu'ils sont particulièrement méchants, ou pire que les animaux, mais parce qu'ils sont plus intelligents. Et que le mimétisme, la faculté d'imiter, de reprendre les conduites des autres, de désirer reprendre ces conduites, de ressembler aux autres, est essentiel chez les hommes. Et son grand inconvénient, c'est que si on fait ceci, on risque toujours d'emprunter aux autres non seulement leurs attitudes, leurs grimaces, leurs conduites insignifiantes, et c'est ce dont on parle toujours quand on parle d'imitation, mais leurs désirs.
Voilà la voix de René Girard. Vous avez lu Alain Rey, son œuvre?
Oui, pas mal de choses, en effet.
Ouais. Michel Serres a dit, lui, qu'il était le Charles Darwin des sciences humaines. Il a pourtant une œuvre qui reste assez mal connue du grand public en France.
Oui, et qui n'est pas appréciée de tous, parce que René Pommier, qui était un grand spécialiste de littérature, a parlé à son propos de ces illuminés qui se prennent pour des phares, ce qui n'est pas gentil du tout. Je pense que René Girard est très important dans l'histoire des idées, mais je ne pense pas que ce soit un ethnologue. Je pense que c'est une anthropologie imaginée, très forte, très idéologique, dont les racines sont évidentes et il ne l'a pas caché lui-même, elles sont judéo-chrétiennes, et que ses raisonnements sur l'universalité de ce qu'il appelle le désir mimétique ne marche pas du tout dans l'histoire des idées si on fait référence au bouddhisme, au confucianisme ou au taoïsme. Par exemple, et il y aurait d'autres choses. Alors la thèse de Girard était que l'homme étant violent, il vient de le dire à l'instant, il y avait un règlement de compte victimaire qui faisait que ce qui était la cause du mal et l'imitation du mal par désir de ressembler aboutissait à un sacrifice où la collectivité tuait une victime. C'est sa théorie du bouc émissaire qui est au centre de sa pensée. Alors c'est très important parce qu'effectivement le bouc émissaire qui est une invention juive et qui est dans la Bible, on envoie un bouc, non, on ne le sacrifie pas. On l'envoie dans le désert pour qu'il périsse éventuellement, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'éloigner les péchés. Il est chargé de tous les péchés d'Israël et envoyé promener, si j'ose dire, très loin. Et ce qui m'avait rapproché de la pensée de Girard, c'est quand j'ai un peu travaillé sur le diable, parce qu'il avait aussi écrit un livre qui s'appelle « Je vois Satan tomber comme un éclair ».
En 99.
En 99, qui est une belle réflexion sur la personnalité du démon. Et le démon fait partie pour lui justement de cette espèce d'univers où par désir de remplacer l'autre et d'obtenir ce que l'autre veut, hein, c'est une espèce de concurrence violente, aboutit à cette théorie de la victime qui est centrale peut-être dans la Bible, mais qu'il est déjà beaucoup moins dans l'évangile, et c'est la base de sa réflexion, parce que l'évangile où il y a ce sacrifice, c'est naturellement le procès intimé à Jésus, sa condamnation et sa mise à mort par crucifixion, mais le fait que le mise à mort et la victime ressuscitent et manifestent à ce moment-là qu'il est identique à Dieu et qu'il est Dieu lui-même, évidemment corrige la chose et fait du christianisme le contraire de la mythologie grecque. Alors tout ça est très beau. Mais ça me paraît, on parlait tout à l'heure en science et en astronomie du poids des probabilités et des hypothèses, c'est évidemment une grande probabilité dans l'histoire de l'humanité, mais c'est certainement pas la seule, et je pense qu'il faut moduler un petit peu le savoir de René Girard, que par ailleurs j'admire énormément, ne serait-ce que parce que il y a eu quelques croisements dans nos vies. Il a commencé ses études de littérature à l'université d'Indiana à Bloomington, où j'ai enseigné moi-même, donc voilà.
Merci à l'arrêt pour cet hommage à René Girard, donc disparu hier aux États-Unis. Allez, on se retrouve dans un instant avec Marie Treps pour parler des expressions en France et à l'étranger.